Pascal Charbonnat, tu viens de publier aux éditions Syleps une histoire des philosophies matérialistes, un volume de 650 pages qui retrace donc l'histoire de ce courant de pensée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On commencera ce petit entretien par cette question simple et évidente. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre un travail aussi important? En termes de temps, en termes de charge de travail, raconte-nous la genèse de ce projet.
Alors oui, tout est parti du constat qu'il n'y avait pas d'histoire du matérialisme en langue française. On avait juste à disposition une édition du 19e siècle d'un auteur allemand, hein, Lang, qui lui-même n'était pas matérialiste. Donc on ne pouvait pas se satisfaire de cette édition. Et par ailleurs, plus récemment, on avait à disposition qu'une édition américaine d'une histoire du matérialisme, mais assez lacunaire. Également des travaux d'Olivier Bloch, qui est un spécialiste du matérialisme en France, mais ces travaux n'ont pas été synthétisés dans une grande histoire du matérialisme. Donc, face à cette absence, j'ai pensé que faire une histoire du matérialisme serait profitable à un double titre. D'une part, les auteurs matérialistes sont absents des programmes scolaires et universitaires. Hein. Épicure, Démocrite, Jean Mélié, Cyrano de Bergerac, La Mettrie, tout ça, sont des grands auteurs incontournables du matérialisme, mais ils sont absents des cours d'université et aussi des cours de lycée. Donc il fallait essayer de leur redonner un peu de publicité, si j'ose dire. Et puis, j'ai aussi voulu tenter d'écrire une histoire du matérialisme avec une méthode matérialiste, c'est-à-dire en essayant de restituer comment la pensée d'un homme pouvait être reliée à la société de son temps et aux préoccupations de son temps. Parce que je pense qu'une des grandes thèses du matérialisme, c'est de dire que les idées des hommes et leurs connaissances ne tombent pas du ciel, hein. Ne sont pas produits par génération spontanée, hein, mais qu'elles dépendent de conditions matérielles bien précises.
Très bien. Donc cette somme qui prend la forme donc à la fois d'une chronologie, d'un tableau général du courant matérialisme et des courants matérialistes, pourrait-on dire, et qui fait aussi la part belle à des pans biographiques très importants, atteste quand même d'une situation très, très paradoxale de nos jours. C'est un des constats que tu fais, c'est que le matérialisme est en tant que doctrine dûment constituée, et non pas en tant que pensée un peu diluée, et donc un courant de pensée tout à fait sous-estimé, voire méprisé. Le terme ne fait plus florès, alors même que nous vivons dans une société qui, à bien des égards, notamment quant à la prégnance des sciences, est, pourrait-on dire, tout à fait matérialiste, au sens assez évident du terme. Peux-tu nous décrire cet état de fait paradoxal?
Alors c'est vrai qu'on constate une faible représentation du matérialisme en tant que philosophie, on va dire, dans notre société, hein. Non seulement dans les médias, mais également dans les institutions de savoir, hein, comme l'université. Alors, je ne pense pas qu'il faille s'étonner réellement de cette situation, même si on peut la déplorer, parce qu'en fait, les philosophies matérialistes ont toujours été plus ou moins des pensées contestatrices de l'ordre établi, hein, et encore aujourd'hui. Et en plus, il y a un autre facteur qui n'aide pas à une bonne représentation de la philosophie matérialiste, c'est que tout le courant du matérialisme qui s'est situé dans le sillage du marxisme a pratiquement disparu après l'effondrement de l'URSS et le recul du mouvement ouvrier. Du coup, aujourd'hui, les seuls représentants efficaces du matérialisme sont des scientifiques. Hein, on le voit, les seuls à défendre des thèses matérialistes sont des scientifiques. Et comme ces scientifiques ne sont pas des philosophes, donc pas d'audience dans les milieux philosophiques ou même culturels en général, et du coup, l'audience des philosophies et des thèses matérialistes sont aujourd'hui assez restreinte. Et est aujourd'hui assez restreinte.
Pire que ça, dans le grand public, pour employer un terme usuel, et même dans certains milieux intellectuels, on assiste à une résurgence criante de différentes thèses antimatérialistes à divers titres. En philosophie, ça va de l'idéalisme à des résurgences spiritualistes. Et en science, pour rebondir sur ce que tu disais, on assiste même à un regain d'intérêt pour des thèses néo-créationnistes, hein, à des degrés divers. Ça nous vient des États-Unis essentiellement, mais ça commence à faire son chemin et à donner lieu à une situation particulièrement inquiétante. Donc on peut considérer effectivement que l'antimatérialisme contemporain prend cette forme-là, celle d'un retour aux thèses créationnistes du XVIIIe et du XIXe siècle. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette situation particulièrement inquiétante ?
Alors, oui, bien sûr, la résurgence du créationnisme est préoccupante parce que les créationnistes tentent de réintroduire leurs idées dans le contenu même de la science. Bon, on l'a vu aux États-Unis avec les tentatives soit de fondamentalistes assez arriérés, soit de créationnistes plus raffinés qui tentent de modifier les programmes scolaires et finalement de disqualifier la théorie de l'évolution et Darwin. Alors, je crois que justement face à ce phénomène, les matérialistes ne doivent pas hésiter à défendre leur position, et notamment leur position entre guillemets métaphysique, c'est-à-dire défendre leur thèse matérialiste qui consiste à dire le monde n'a pas été créé, le monde n'a pas eu besoin de créateur. Il résulte d'un autodéveloppement, hein, de ce que j'appelle des processus immanents. Et cette thèse-là, qui est une thèse métaphysique, parce qu'il n'est pas possible de la démontrer empiriquement, bien sûr, en tous les cas pour le moment, il ne faut pas hésiter à la défendre et à la propager face aux tentatives des néo-créationnistes. Hein, parce que si on en reste simplement sur le terrain, je dirais, scientifique, c'est-à-dire le terrain empirique, on peut opposer aux créationnistes des arguments d'expérience en leur disant une création ex nihilo des espèces est complètement démentie par tous les faits rapportés par les différentes sciences de la vie. Mais on en reste là. Et je pense qu'en défendant une philosophie matérialiste clairement revendiquée, on peut aller un peu plus loin et on peut dire le recours à une entité transcendante, une entité créatrice, n'a jamais rien expliqué dans toute l'histoire de la connaissance. Et on peut lui opposer une autre conception du monde et de l'être. Hein, cette conception qui nous dit que tout ce qui existe se suffit à soi-même pour exister et se développer. Hein, donc je pense que pour vraiment disqualifier cette résurgence du néo-créationnisme, il ne faut pas hésiter à se mettre sur le terrain des principes, hein, sur un terrain entre guillemets métaphysique, j'aurais dit, qui peut être conjoint et complémentaire de l'argumentaire empirique que peuvent utiliser les scientifiques.
Si je comprends bien ton propos, tu considères donc que la position du matérialisme méthodologique est insuffisante. Or, on la rencontre assez souvent comme étant, comme se déclarant le seul garde-fou contre les intrusions spiritualistes des créationnistes actuels, par exemple.
Oui, alors en fait, moi je distingue le matérialisme méthodologique dont tu parles et le matérialisme philosophique. C'est-à-dire que pour moi, le matérialisme philosophique, c'est une thèse, un principe a priori qui nous dit. L'être en général, chaque chose, à son origine, à son principe de formation dans le monde par des processus immanents. Bon. Ça, c'est une thèse métaphysique, on va dire, donc qui n'est pas démontrable empiriquement. En revanche, le matérialisme méthodologique, c'est la position inhérente à chaque science digne de ce nom, qui nous dit les phénomènes que la science étudie sont explicables par des mécanismes immanents à ces phénomènes. Et ils sont l'explication de ces mécanismes est prouvée et justifiée par l'expérience. Donc cette différence entre matérialisme méthodologique et matérialisme philosophique est importante, mais elle ne doit pas empêcher les scientifiques ou les philosophes de se servir des arguments de l'un ou de l'autre pour contrer les créationnistes. Hein, je pense pas qu'il soit embêtant qu'un scientifique se serve de thèses philosophiques et à l'inverse qu'un philosophe utilise des arguments de la science. Hein. À condition, bien sûr, que la séparation soit claire dans les esprits.
Et dans le fil de cette conception que tu viens d'exposer, y a-t-il des philosophes qui, justement, se réclament à la fois de cette dichotomie et de cet accord entre matérialisme méthodologique et matérialisme philosophique ?
Alors, cette dichotomie, c'est moi qui l'ai fait, hein, pour tout dire. Mais par exemple, si on prend Épicure, un philosophe antique, bah c'est un des premiers philosophes matérialistes à dire que la nature se suffit à elle-même. Et que donc, on peut trouver des causes aux phénomènes de la nature dans la nature et pas dans une entité étrangère à la nature. La postérité de cette thèse est immense puisque... Malgré la censure du christianisme sur l'épicurisme, eh bien ces thèses ont réussi à traverser tout le Moyen-Âge et à parvenir jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle et à être repris par des matérialistes plus récents comme Bergerac, Méliès, Lamétrie, d'Holbach, Diderot et d'autres. Et puis... on commence tout de même à avoir une distinction entre matérialisme méthodologique et matérialisme ontologique chez, par exemple, un philosophe comme Lamétrie, qui est du XVIIIe siècle, qui, lui, nous dit il faut rejeter a priori toute explication par les causes finales, hein, par le recours à un dieu créateur, et s'intéresser simplement aux mécanismes des phénomènes de la nature. C'est un peu l'anti-Descartes, hein, ce Lamétrie. Et par rapport à Épicure, disons que il sépare bien ce qui est du domaine de la science, de l'explication par les mécanismes et par l'expérience, de ce qui est du domaine des thèses métaphysiques. Hein. Voilà.
Et plus près de nous, puisque tu viens d'évoquer un philosophe de l'Antiquité, un philosophe du XVIIIe, plus près de nous, tu verrais quel penseur qui pourrait être raccroché à ce courant de pensée-là.
Alors bien sûr, il y a Marx, hein, qui est incontournable dans l'histoire du matérialisme depuis le XIXe siècle. Incontournable non seulement sur le plan des idées, mais aussi sur le plan historique. Hein. Et ce qu'il faudrait, enfin, un personnage auquel il faudrait ajouter à Marx, c'est le philosophe allemand qui a, en même temps que Marx, exprimé des positions matérialistes, mais sur un autre plan, qui s'appelle Büchner. Et donc, ces deux figures, Büchner et Marx, sont très importantes pour le matérialisme moderne. Parce qu'elle représente un peu les deux voies engagées par le matérialisme d'aujourd'hui. Hein. Celle engagée par Marx a rapport avec l'histoire et avec la dialectique. Et celle engagée par Büchner a rapport avec l'évolution et les théories de Darwin. Et je crois que l'enjeu du matérialisme à venir, c'est justement de tenter de faire la part entre ces deux courants, soit de les réconcilier, soit d'évaluer qu'est-ce qu'il y a à retenir de l'un ou de l'autre, ou voire même de supprimer l'un ou l'autre, hein. Mais je pense que pour les matérialistes d'aujourd'hui, l'avenir est à la réflexion sur ces deux grandes tendances.
Merci Pascal.